nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Seul ici avec vous et toute la nuit. Moi qui ai si peur de désobéir, il lui dit, pour ne pas avoir peur, c'est simple, il ne faut pas avoir peur. Elle lui dit, j'ai froid. Elle se plaque contre lui. Il la serre fortement. Elle lui dit, nous serons toujours comme ça. Et ils sortent du café. Le jour est complètement levé. L'air est frais. Elle lui dit, j'adore le matin. Et ils ont continué à marcher. Elle a vu une voiture noire s'arrêter. Le chauffeur sortir, aller à eux. Elle lui dit, on vient me chercher. Reste. Je ne peux pas, on te ferait du mal. Donne-moi ton adresse. Il la lui donne, elle l'embrasse et va vers la voiture. Elle entre dans la voiture. Et il l'a vu s'éloigner. Il habite Montparnasse, dans une petite rue, un petit immeuble, triste, au deuxième étage. L'immeuble est sans âge. Il entre dans l'allée. Il a un petit deux pièces. Couloir en face séjour, à côté, à droite, chambre, et à gauche, cuisine. Ce n'est pas grand, tapisserie défraîchie à fleurs beige, lino gris à terre, vieux meuble de 160 dépareillé. Le séjour est meublé en salon avec deux fauteuils et un canapé à fleurs, une vieille table pour en bois pour la boisson, un bar roulant et un buffet. La chambre a un lit à deux places, une armoire à deux portes. Il entre chez lui, épuisé et heureux. Il est heureux, mais en même temps inquiet. Va dans sa chambre. Quitte ses vêtements, se met en t-shirt et slip, puis s'allonge sur le lit. Drôle de soirée, oui. Drôle de soirée. Il s'endort. Il fait des rêves étranges où il est entouré de monde et n'arrive pas à s'approcher de la jeune fille. Un autre où une voiture lui court après. Il se réveille tristement et se dit qu'il ne pourra jamais la voir. Elle est riche et lui n'a rien. Mais l'amour, il s'aime. Dans l'après-midi, on sonne à sa porte. Il va ouvrir. C'est un grand jeune homme de son âge, mince, le visage fin, yeux bleus, cheveux blonds, habillé d'un jean et d'un t-shirt blanc et d'un blouson en cuir noir. Salut Yann, entre. Il entre, ferme la porte. Yann lui dit, qu'est-ce que tu as fait pendant la soirée? Les parents de Judith sont furieux. Frédéric lui dit, viens, allons au salon. Et il le mène au salon. Entre, il le fait entrer au salon. Assieds-toi. Il s'assoit. Tu veux boire quelque chose? Oui, une bière. Et il va à la cuisine lui chercher la bière. Il revient avec deux canettes de bière. Il en donne une, merci, et il s'assoit. Je te mène à une soirée et tu fous le bordel. De quoi ai-je l'air, moi? Tu te rends compte?
on ne va plus m'inviter. La fille est presque fiancée à ce type. Et ce type, c'est lui qui m'a invité. Parce que nous sommes de bons amis. Je fais des courses de voiture et j'aime ça. Et toi, tu viens foutre le bordel. Tout allait bien. Il avait sa copine. Et voilà. Toi, tu débarques et tu pars avec elle. Tu es fou, non ?
Pour rien si je l'aime.
Tu l'aimes, tu l'aimes. On n'aime pas comme ça. Tu l'as à peine vu.
Frédéric lui dit, mais le coup de foudre, ça existe, non ?
Dans les romans, si tu veux. Et puis, la fille est mineure. Si ses parents n'accepteront jamais un parti comme toi.
Qu'est-ce qu'ils font, ses parents ?
Très riches. La femme est dans les tissus et le mari les transports internationaux et les pétroles.
Alors tu vois, Frédéric lui dit, et si je l'aime ?
Il te faudra te faire une raison. Tes parents sont furieux contre toi et le futur, s'il te voit, tu vas passer un mauvais quart d'heure.
Frédéric est tout triste.
Qu'est-ce que je vais devenir ?
Yann lui dit.
Tu n'auras qu'à t'en trouver une autre. Quant à moi, je suis grillé. On dit que c'est de ma faute que je n'avais qu'à pas t'inviter. T'amener. Par ta faute, j'ai perdu un ami très influent.
Frédéric lui dit.
Je ne savais pas. Je suis navré. Il est si influent que ça, ton ami ?
Tu parles, il connaît le fils Franc-Blanc, Gilbert, la famille la plus riche de France.
Bon, eh bien, je m'en vais te laisser. Il se lève, Frédéric le suit et le raccompagne.
Oui, au revoir. Et il sort de l'appartement.
Frédéric se trouve seul et triste.
Il se dit, j'aime une fille qui ne peut m'aimer.
Et pourquoi ne pourrait-elle pas m'aimer ?
Mais oui, elle-même, ce sont les autres qui ne veulent pas.
Mais non, il faut que je fasse une raison.
Pas à se faire une raison. Il voit toujours le visage de la jeune fille.
Pourquoi ne pourrions-nous pas nous aimer ?
Toute la journée, il broie du noir.
Le soir, il décide de sortir. Et ses pas le ramènent malgré lui devant la maison de Juliette. Il a le corps serré en voyant ce portail fermé, définitivement fermé pour lui.
Il ne peut pas quitter sa rue.
mais il a peur de se faire remarquer. Et en même temps, il la veut voir, il veut la voir, et qu'elle le voie. Il fait complètement nuit maintenant. Il fait le tour de la maison. À l'arrière, le mur de la maison touche celui du jardin. Il passe sur le trottoir d'en face, essaie de le voir. De voir à travers les rideaux, les voiles. Il voit de temps en temps des ombres, des lampes qui s'éteignent, qui s'allument. Il essaye d'entendre. Peut-être entendra-t-il sa voix. Mais non, aucune voix ne filtre de la maison. Petit à petit, les fenêtres sont dans le noir. Continue à tourner autour de la maison. Derrière la maison, au deuxième étage, il voit une fenêtre qui s'éclaire et une ombre qui s'approche. La fenêtre qui s'ouvre. Vite, il se cache derrière un arbre. Oh mon Dieu! Mon Dieu! C'est elle. Elle est accoudée à la fenêtre, en chemise de nuit, et regarde le ciel. Oh, ma Juliette! Elle vient de parler tout haut. Elle a entendu. Regarde autour d'elle. Qui vient de parler? Il sort de sa cachette. Le corps battant. C'est moi. Elle le regarde. « C'est toi, Frédéric? Mais que fais-tu là, mon amour? Si on te voit, tu seras chassé à coups de gourdin. Je t'aime, ma Juliette, et je ne peux pas vivre sans toi. Que m'importe la vie si tu n'es pas avec moi? » Elle lui dit, « Moi aussi je t'aime, mais mes parents ne voudront pas savoir. » Et ont décidé de me fiancer avec ce grand nigaud, que je suis malheureuse. Il lui dit, ne le sois pas, nous partirons ensemble, toi et moi, loin d'ici. Mais comment? C'est impossible. Je trouverai bien un moyen pour te sortir de là. Peux-tu sortir seul? Sors-tu seul? Elle lui dit, seulement pour aller à mes cours. J'y vais à 9h du matin à l'école Saint-Sulpice, à côté. C'est bien, j'attendrai demain matin devant l'école et nous verrons ce que nous pourrons faire. Elle lui dit, il faut nous quitter car tu risques d'être pris. Alors à demain. Elle lui donne un baiser de la main et ferme la fenêtre.
Le lendemain matin, il l'entend à l'entrée de l'école. Il la voit venir, vient vers elle. Il s'embrasse et lui dit « J'ai pas beaucoup de temps, nous sommes surveillés. » Il lui dit « Si tu veux partir avec moi, je viendrai te chercher devant chez toi à 18h avec une voiture. Ils partiront pour Marseille et de Marseille prendront un bateau pour la liberté. Rien que nous deux. » Elle lui dit « C'est un peu risqué de partir comme ça, mais j'accepte parce que je préfère vivre avec un homme que j'aime plutôt qu'avec un autre. » Elle l'embrasse et s'éloigne. Il va tout préparer, entre chez lui pour faire ses valises. Deux heures plus tard,
l'on sonne à sa porte. Il va ouvrir. Un homme grand, fort, costume gris, chemise, costume noir. C'est vous, Frédéric Thomas?
Oui.
Vous allez venir avec moi.
Mais pourquoi?
Venez. Il le prend au bras et Frédéric voit plusieurs hommes sur le palier, des policiers, des hommes en blouse blanche. Il essaye de sortir de leur emprise, mais il ne peut pas. Il est trop entouré. On le pousse hors de chez lui. On le fait descendre les escaliers. Mais qu'est-ce que vous faites? Je n'ai rien fait. On sort de l'immeuble. Une fois dehors, on le pousse dans une camionnette.
Mais je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Laissez-moi partir.
Il sent que personne ne l'entend. C'est peut-être un malentendu. On va le libérer.
Et la camionnette file. Elle est entourée de motards. Et s'est arrêté.
On ouvre la portière et on le fait sortir. Il regarde où il est. Il voit que c'est un hôpital.
Mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous m'avoir amené ici?
Personne ne lui répond. On le pousse à l'intérieur. On le fait descendre des escaliers qui vont au sous-sol. Une fois au sous-sol, on lui fait longer un long couloir. Il se dit qu'on doit le prendre pour un dangereux criminel qui va être au secret. Mais ils vont bien voir qu'ils se sont trompés. Un commissaire va sûrement l'interroger Ils verront bien qu'ils se sont trompés. On ouvre une porte. La pièce est sombre. Une chaise, une table. Sur la table, une loupe et une lampe. On le fait asseoir sur la chaise. On met la lampe sur les yeux et on regarde à la loupe. Et on regarde à la loupe. On regarde bien la loupe et une voix dit négatif. Vous en êtes sûr? Oui. Encore un innocent. Une innocente victime de la démocratie, de la dénonciation. Frédéric le dit. Vous voyez bien, je suis innocent. Je peux partir? On ne lui dit rien. On le lève. On le fait sortir de la pièce. Longer le couloir. On le fait entrer dans une pièce. C'est sombre. Il y a un plateau en métal. À roulettes. Et un cube, un grand cube. On fait allonger Frédéric. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? On le sangle avec les courroies. Et on fait avancer le plateau. Une trappe s'ouvre. Non ! Les tapeaux entrent à l'intérieur de la trappe. Et la trappe se referme. Silence. Une petite trappe s'ouvre et fait tomber dans une poubelle des cendres. Un homme dit : on ne pouvait pas faire autrement. Juliette sort de sa chambre tout doucement avec sa valise. Elle descend les escaliers. Sans faire de bruit. En bas des escaliers apparaît sa mère. En robe rouge. Où vas-tu ? Elle ne répond pas. Sa mère s'approche d'elle et lui dit : Tu veux aller? Tu peux aller défaire ta valise. Il ne viendra plus te chercher.
Juliette la regarde et lui dit,
même si vous m'empêchez de le rejoindre aujourd'hui, j'irai le rejoindre une autre fois.
Sa mère lui dit,
non, c'est impossible.
Pourquoi?
Sort de l'ombre son fiancé qui lui dit,
parce qu'il est mort à cette heure-ci.
Juliette pâlit et lui dit, que dites-vous là?
La vérité, j'ai téléphoné pour qu'on vienne le prendre. C'est un mutant.
Vous mentez!
Je ne mens pas, Juliette. C'est la vérité.
Non, c'est faux!
Elle lâche sa valise et sort pour aller le rejoindre.
Sa mère fait le geste de la rattraper. Le fiancé lui dit,
non, laissez-la se rendre compte par elle-même.
Au hasard, voit un taxi, l'appelle.
Elle entre dans le taxi et donne l'adresse où habite Frédéric.
Tati s'est arrêtée devant l'immeuble. Elle sort du taxi et va rentrer dans l'immeuble.
Elle va regarder aux boîtes aux lettres pour voir l'étage et monte. Elle arrive devant sa porte. Elle frappe. Frappe. La porte d'à côté s'est ouverte. C'est un homme de taille moyenne, chauve, tout maigre, en robe de chambre bordeaux. Il lui dit,
il n'est pas là. Vous savez où il a été? On l'a emporté comme mutant. Malheureusement, à cette heure, il ne doit plus rien rester de lui.
Et toute pâle, il lui dit,
il faut bien que les humains se défendent, non?
Et il ferme la porte. Elle s'en retourne. Pâle comme une morte.
et fait signe à un taxi. Elle sort du taxi et va rentrer chez elle. Monte à sa chambre. Dans sa chambre et se déshabille. Va vers le téléphone qui est sur une commode. Fait un numéro. Allô? Numéro M? Oui, il y a une mutante au numéro. C'est la fille. Venez vite, elle est très dangereuse.
Bien, nous allons faire notre possible. Je vous remercie.
Et elle raccroche. Puis, elle va s'allonger. Deux heures plus tard, alors que tout le monde est parti, l'on sonne au portail de la cour. Tic se lève pour aller ouvrir. Et sort de la maison. vers le portail pour aller l'ouvrir. Il voit un grand homme fort, chauve, costume gris. Près de lui, des policiers en costume et des hommes en blouse blanche. Demande « C'est pourquoi ?» L'homme lui dit « Nous venons chercher Mademoiselle Juliette. »«
Mais c'est impossible. Mademoiselle dort à cette heure. » »«
Aucune importance. Nous allons la réveiller. » Et il pousse le domestique, entre dans la cour. Les hommes qui l'accompagnent aussi. Ils entrent dans la maison. L'homme dit « Les chambres doivent être en haut. » Il monte les étages. On entend des portes claquer. Les gens courir. Le père et la mère arrivaient à eux. Ils sont en robe de chambre bordeaux. Le père demande « Que se passe-t-il » L'homme lui dit « Nous sommes de la brigade spéciale Opération M. Et alors ? Nous sommes ici pour venir chercher Mademoiselle Juliette. » « De quel droit ? C'est une mutante !» La mère hausse ses épaules et lui dit « Mais c'est ridicule, je le saurais, c'est ma fille !» L'homme lui dit « Nous n'avons pas à le savoir, on est juste là pour prendre votre fille !» Le père lui dit « Mais je ne vous laisserai pas faire !» L'homme lui dit « Comment ?» Et lui montre tous les hommes qui sont derrière lui et armés. Juliette apparaît. Derrière eux. Habillée d'une robe blanche qu'elle avait pour la soirée, elle dit « Je suis prête, je viens. » Sa mère lui dit « Non, tu n'iras pas. » Juliette lui dit « Je pars avec ces messieurs, mère. » Son père lui dit « Sûrement pas. » Elle lui dit C'est moi qui ai appelé ce numéro pour qu'il vienne me prendre. Sa mère lui demande, mais pourquoi ? Tu es folle ? Non, mère, parce que vous avez fait tuer par ces hommes l'être qui m'était le plus cher au monde. Je vais moi aussi, avec eux, suivre le même destin que Frédéric. Mais je ne veux pas. C'est trop tard, ils sont là. La mère en larmes dit, ma fille, je souffre. Cela t'apprendra combien je souffre moi aussi. Elle descend les escaliers. Sa mère lui crie non. Son père non. Elle ne tourne pas la tête. Le père et la mère courent à elle. Juliette est près de l'homme, lui dit allons-y. On entoure Juliette et ils vont vers la sortie de la maison. Elle entend derrière elle les pleurs de ses parents, de son père qui crie « Je vais prévenir le ministre de l'Intérieur. Tu viens, reviendras ma fille. » La porte de la maison se referme derrière eux. La mère est effondrée. Le père court à son bureau. Une fois dans son bureau, il s'assoit pour faire un numéro. Le téléphone sonne, sonne, sonne. Il n'y a personne au ministère. Je suis stupide. C'est la nuit. Il fait un autre numéro. Ça sonne.
Puis, on décroche. Allô? Je suis bien chez le ministre de l'Intérieur. Oui, je suis monsieur. J'aimerais lui parler. Mais je sais qu'il est tard. Et qu'il dort. Mais, ne pouvez-vous pas le réveiller? Non, il n'y a pas la guerre civile. Non, rien. C'est personnel. Et très urgent. Merci.
Il attend un peu.
Allô, monsieur le ministre?
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.